Classique 21, you rock.
Radio Caroline.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous retrouver sur le pont du cargo de Radio Caroline pour la seconde étape de notre voyage à travers des lieux devenus cultes, ceux qui ont enflammé les nuits bruxelloises à la fin des 70s, dans les années 80 et pour certains jusqu'au milieu des années 90 avant de disparaître ou de se banaliser. Dans le précédent épisode, que je vous recommande chaudement d'écouter si vous l'avez raté, sur Ovio mais aussi Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Play et autres, dans ce précédent épisode, donc, nous avons fait revivre en récits, archives et témoignages l'histoire du Mirano, qui s'appelait à l'origine Mirano Continental, et du Garage, créé respectivement en 1981 et 1982, ainsi qu'un disquaire bien connu du cœur de la capitale et jadis incontournable. Aujourd'hui, nous allons entamer la nuit en passant d'abord par deux lieux qui ont précédé chronologiquement le Mirano et le Garage, et sont également entrés dans la mythologie du nightclubbing de notre pays. On l'évoquait lors de notre précédent voyage, les créateurs du Mirano s'étaient fait les griffes dans les années 70 au Canotier, club situé boulevard du Souverain à Auderghem, un lieu qui fut à l'origine en 1923 une salle de bal plutôt chic, avant de devenir un casino, une salle de variété, un cinéma, puis un club sous le nom des Gémeaux. Michel Polnareff y chantera en 1969. Devenu Canotier, clin d'œil ai-je lu à ce que l'on trouvait aux étangs Mellartz, non loin de là, l'endroit accueillera lui aussi des concerts. Y passeront Jonathan Richman, les Stinky Toys, le premier groupe de Jacques No et Deli Medeiros, sans oublier Hubble Bubble, le groupe punk dont Plastic Bertrand, qui ne s'appelait pas encore ainsi, tenait la batterie et souvent le micro. So when you think you're ready, come down to crazy. En 1979, ce sont les B-52s, dont le premier album vient de sortir, qui joueront au Canotier. Et les B-52s, à l'époque, ça donne ça. Et le 18 octobre 1979, quelques semaines avant la sortie de leur deuxième 33 tours, c'est Simple Minds qui se produit sur la petite scène du Canotier devant une centaine de spectateurs à tout casser. Leur première date en Belgique, avant de revenir l'année suivante à Forêt Nationale, mais en première partie de Peter Gabriel, parce que les tubes et le haut de l'affiche, ce sera pour plus tard. Pour l'heure, Simple Minds, c'est par exemple... Mais le Canotier, c'était bien sûr, en dehors des concerts, un lieu dévolu aux clubbeurs, aux platines duquel a œuvré durant un bon moment, jusqu'en 1978, un DJ dont le nom est lui aussi associé aux meilleures nuits bruxelloises, Patrick Gennaro Avella, à une période où il fallait jongler entre le punk, le disco et la new wave naissante, tout en veillant bien sûr à garder une ligne, sa propre ligne. Lui succédera en 1978 un autre DJ culte, déjà évoqué dans l'épisode précédent, dans Jean-Claude Maury, qui suivra le patron du lieu, Paul Sterk, quand en 1981, ce dernier investira avec quelques complices le Mirano. Le Canotier vivra encore quelques belles saisons avant de se voir pousser des épines et de se transformer en un cactus nettement plus mainstream. En 1979 s'ouvrent au 638 chaussée de Saint-Job à Uccle les portes du classique, écrivait K-L-A-C-I-K, endroit que lance un quatuor de vingtenaires uclois. Parmi eux, Thierry Ballas, qui raconte « On avait très peu de budget, alors on a tout mis dans l'installation musicale. C'était un grand espace de 300 mètres carrés avec étage que l'on pouvait modifier facilement. » Tout l'argent dans le son, ce qui veut dire un décor minimaliste, comme s'en rappelle Bruno Bulté, qui en fut le second directeur artistique et que je cite. Il y avait juste des stores vénitiens motorisés disposés au milieu de la salle qui se levaient au fur et à mesure que les gens arrivaient. Côté lumière, Shabada Palmaro, le premier directeur artistique, avait ramené de New York des gyrophares de police qui descendaient, eux, du plafond. Et qui retrouve-t-on aussi au classique le DJ Patrick Gennaro Avella, ex-canotier, on vient d'en parler, qui m'a raconté « Je me suis vraiment amusé au classique car j'avais beaucoup de liberté, ça correspondait musicalement à l'époque New Wave, Cold Wave et même Indus, industriel, donc je pouvais mixer ce que j'aimais, d'autant que le public était assez pointu. On passait pas mal de disques achetés à Londres que les firmes discographiques n'allaient sortir en Belgique que quelques mois plus tard. J'ai aussi eu, avant leur sortie, le test pressing de Pop Music, de M, le temps d'un week-end, et j'ai également testé Moscow Disco de Telex. L'excite donc Patrick Gennaro Avella. Au classique, se souvient encore Patrick Gennaro Avella, j'ai aussi joué pas mal de funk, ce qui n'a pas été facile au début. Par exemple, quand je passais des morceaux du deuxième album de Prince dans les premiers temps, je vidais la piste, il fallait insister pour que le public comprenne cette nouvelle musique et adhère. Un classique dont se souvient le dessinateur Fred Janin, que je suis allé rejoindre, entouré, vous l'entendrez, de Chris de Buchère et Sergio Honoré, trois ex-nuls donc, en somme. Fred étant aussi membre à l'époque du groupe The Bowling Balls, et Chris de Marine, et bientôt de Allez Allez.
Bon, c'est évidemment l'endroit où les jeunes se retrouvaient après avoir été boire un verre au Killiwatch, qui était pas très loin. Tout ça était dans une partie d'Uccle, et moi ça m'arrangeait bien parce que j'habitais pas loin. Donc c'était beaucoup plus loin pour aller au Mirano, où le circus n'était pas très loin non plus.
Chris, le Mirano n'existait pas à l'époque.
Le Mirano n'existait pas, non. Le circus existait déjà.
Oui. Mais il y avait le vieux Saint-Job.
Il y avait le vieux Saint-Job aussi, il y avait des concerts. Le clip, le premier clip des Bowling Balls qui a été fait en Super 8, God Save the Night Fever, il y a une partie qui est filmée dans le classique parce qu'ils avaient cet éclairage rose-bleu et des stores.
Et des stores. Hein.
Ça, c'était la déco du classique, mais il y a une partie du clip qui se fait aussi au circus.
God Save the Night Fever. God Save the Night Fever, rien que pour le titre, c'est formidable. Sinon, le vrai succès belge des Bowling Balls, ce sera avec, aux lyrics et au chant, le trop tôt disparu Bert Bertrand, You Don't Know What It's Like to Be Alone in the House. Les Bowling Balls. Outre un clip, ce groupe donnera aussi un concert au classique où l'on retourne avec Fred Janin et Chris de Buchère.
Alors moi j'ai un souvenir du classique, c'est mon anniversaire, je ne sais pas quel âge, peut-être 18 ans ou 19 ans, j'avais reçu des profiteroles, j'en avais trop. Et le dimanche après-midi, le classique faisait une espèce de café clash, donc pour que les jeunes, après avoir passé la nuit, viennent encore boire des verres au classique. Et je me rappelle avoir partagé des profiteroles avec Lio qui avait même pas encore sorti son Banana Split.
Et moi mon souvenir du classique, c'est... D'abord, c'est mon premier vrai contact avec la nightlife, le nightclubbing. J'avais pas 18 ans, donc normalement, je pouvais pas y entrer. Et quelqu'un m'a emmené là-bas en me disant, attends, tu vas voir, c'est génial, il y a une beach party. Une beach party, moi, j'étais un ancien punk.
Donc, de l'anglais, c'est beach.
Beach, oui, comme une plage. Ouais. Oui. Et moi, j'étais un ancien punk, donc j'avais pas l'habitude de voir des gens en beau. Et puis, j'étais à cette fête, et franchement, c'était... mais incroyable. Il y avait du sable partout, comme à la plage, alors qu'on était à la place Saint-Job, pour ainsi dire. Il y avait tous des gens beaux, des beaux gars, des belles filles en bikini, tout le monde dans une boîte. Vous imaginez un peu le truc. Je suis devenu fou. Et puis, ça a été le début d'une douzaine d'années de nightclubbing intense. Et cet endroit était génial, en fait.
Encore aujourd'hui, le nombre de femmes qu'on rencontre et qui nous disent « Ah, moi, je me rappelle, je faisais le mur pour aller au classique quand j'étais jeune. »
Eh oui, eh oui. Mais la femme la plus inoubliable du classique, c'est la Madame Pipi.
Exactement.
Vous vous rappelez de Marie Wilders?
Absolument.
Oui. Elle habitait loin, elle habitait près du square en Biorix, elle venait en tram, et quand la nuit était finie, elle enlevait sa perruque, parce qu'elle avait quand même une perruque pour faire un peu chic dans sa loge de Madame Pipi. Elle enlevait sa perruque et elle prenait le premier tram qui partait de Saint-Job jusqu'au fin fond du square en Biorix.
Et ce décidément mythique classique marqua futur Allez Allez lui aussi, l'a également fréquenté.
Le classique, c'était génial parce qu'à la fois, il y avait la boîte de nuit et puis cet endroit servait aussi de lieu de concert. Donc j'ai pu y voir entre autres U2, la toute première fois où ils sont venus en Belgique, et puis plein d'autres groupes, dont entre autres The Cramps. Voilà, la boîte, sinon, elle était magique, parce qu'elle était vraiment dans l'esprit années 80, avec un décor, on va dire, industriel. Et puis, il y avait aussi il y avait l'étage avec la dame pipi et un endroit où on pouvait aller s'acheter un sandwich ou boire un verre et un petit peu sortir du bruit, quoi. Ce que je me souviens aussi, c'est qu'il y a eu deux périodes au classique. Et à la deuxième période, on a eu la chance d'avoir comme portier un certain Jean-Claude Van Damme.
Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Alors bien sûr, on ne rentre pas dans ce genre de club habillé banalement, on l'a dit, le public est pointu, le look fait partie de l'expérience de la nuit, comme l'explique en 1979 Bernard Cauchy, l'un des boss du classique.
Le fait de sortir, c'est devenu vraiment un événement, c'est-à-dire que les gens se déguisent pour sortir la nuit. Alors bon, il s'ensuit la naissance d'un marché parallèle, c'est-à-dire des magasins qui habillent les gens qui sortent la nuit, des coiffeurs qui se spécialisent pour les gens qui sortent la nuit. Bon, là-dedans est inclus le fluo, est inclus les vêtements à la mode qui finalement ne font leur apparition que le soir.
Dans nos discothèques géantes, les jeux de lumière nous permettent de jouer à cache-cache avec le désespoir. Nos vêtements nous déshabillent et dissimulent nos petites peurs quotidiennes. Nos sexes confondus sont nos seules libertés. Puisque nous dansons sur le volcan que nous avons choisi, il nous reste un seul espoir, un ultime souhait, que la musique soit bonne.
Extrait d'un reportage du magazine À suivre, reportage réalisé par Jean-Pierre Berkmans en juin 1979. Que la musique soit bonne, dit-il, sur la piste, mais aussi sur scène, puisque, comme au Canotier, où ont eu lieu les premiers concerts belges de Simple Minds et de B-52s en 1979, je le disais, le classique accueillera à la même époque d'autres concerts gravés désormais dans les mémoires de ceux qui ont eu la chance d'y assister, souvent par hasard d'ailleurs, comme celui de Cure, le 22 décembre 1979. Et Cure sur scène en décembre 79, ça donnait ça. Au printemps 1980, c'est OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark, qui jouera au classique, et à l'automne, Bauhaus, Echo and the Bunnymen, mais aussi, le 18 octobre, U2, devant une petite centaine de spectateurs massés, ou plutôt dispersés, dans le quartier. Comme s'en souviendra Philippe Koch, l'organisateur du concert, les membres de U2 sont arrivés dans une camionnette pourrie et tellement fatigués qu'ils ont dormi à même le sol du classique avant leur prestation. Un concert, ajoute-t-il, qui devait absolument être bouclé pour minuit, d'abord parce que les clients venus pour danser attendaient de pouvoir onduler sur la piste, mais aussi parce que la malle, qui devait ramener le groupe à Londres, attendait également. Quelques mois plus tard, U2 jouera au Beurskoburg de Bruxelles, concert capté par la RTBF pour l'émission Folies de Gilles Verland, qui en interview le chanteur entre deux bouchées de pommes.
Voici maintenant U2, un groupe irlandais dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 20 ans et dont les membres s'appellent Larry, Adam, The Edge et Bono, le chanteur que j'ai ici à côté de moi. Alors U2 a déjà sorti plusieurs singles, dont A Day Without Me et un album intitulé Boy, et produit par Steve Lillywhite, le producteur de Peter Gabriel, Susie and the Banshees de Ultravox et de XTC. Alors Bono, tu es irlandais, et qu'est-ce qu'il y a de particulier à propos de la scène irlandaise? Bono, you're Irish, what's this particular with the Irish scene?
Irish scene? Well, there's been a lot of groups have come out of Ireland in the last few years, the Undertones, Stiff Little Fingers, etc. But I personally do not believe in scenes or gangs or groups like this. I think a group should be original.
Donc Bono ne croit pas à la scène irlandaise. Il y a pas mal de groupes qui sont sortis en Irlande, comme les Undertones, Stiff Little Fingers ou des groupes comme ça. Mais il ne croit pas qu'il y a une chose qui ressemble à une scène et que tous les groupes ont leur originalité et leur individualité.
I warn you, we're not just another English band passing through. We're going to be back here for you. This is from a long time ago. It's called Stories for Boys.
Située au 21 de la rue de Manchester à Molenbeek, près du canal, la raffinerie abrite depuis plus de 30 ans l'antenne bruxelloise de Charleroi Danse, centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles dédié à la danse contemporaine. Mais c'est à l'initiative de Frédéric Flamand, alors directeur de la compagnie du plan K, que cette ancienne raffinerie graffée sera reconvertie en 1979 en un lieu culturel pluridisciplinaire, comme il le raconte dans cette archive.
La raffinerie, ça c'est après un très long voyage à New York. Hein. Comme tu sais, plein d'artistes qui sont installés dans des lofts à New York, des danseurs, des peintres, des performants, tout ça. Et après 6 mois là-bas, on est revenu en Belgique, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve un lieu. Et alors on a visité une cinquantaine de lieux à Bruxelles. Et puis un jour, nous sommes tombés un dimanche après-midi sur cette vieille raffinerie qui nous a semblé tout à fait extraordinaire. Et qui allait convenir au programme qui était le nôtre, c'est-à-dire faire en sorte que des artistes, que des gens qui s'intéressent à la musique rock, des jazzmen, que des peintres, que des acteurs puissent non seulement présenter des spectacles, mais travailler ensemble au sein d'un même bâtiment.
La raffinerie du plan K ouvrira ses portes en octobre 79. Au sujet de cette inauguration, je vous livre l'extrait d'un article du média en ligne La Pointe, signé Carolina Svobodova. La raffinerie était connue pour les grandes fêtes qui se déroulaient dans les 9000 mètres carrés de cette ancienne usine de sucre molenbeekoise transformée en lieu de culture. La plus légendaire d'entre elles est certainement celle qui se déroula le 16 octobre 1979 pour l'ouverture du lieu. Imaginons un peu. Les affiches dans Bruxelles et la presse ont largement relayé l'événement, annonçant la venue extraordinaire du gourou de l'underground William Burroughs, et ce, au cours d'une soirée unique où il sera également possible d'assister aux performances d'artistes internationaux, aux concerts de Joy Division et de Cabaret Voltaire, ou à des projections de films. Cette soirée fait traverser le canal aux jeunes bruxellois, ajoute Carolina Svobodova. Beaucoup se rendent en voiture dans ce quartier excentré. Heureusement, il est facile de se garer. Place Duchesse du Brabant. Ensuite, il suffit de descendre la rue de Manchester, longeant quelques maisons d'habitation et d'anciennes usines et entrepôts jusqu'à l'imposant bâtiment en briques rouges, en haut duquel on peut lire « Raffinerie graffée ». L'ancienne usine se distingue par son architecture et par son esthétique. On pense aux lofts d'artistes new-yorkais avec lesquels la presse n'a pas manqué de faire le rapprochement. En passant sous le portail, on découvre la foule rassemblée dans la cour intérieure et on conscientise l'importance de l'événement dans le monde culturel bruxellois. C'est là, ce soir, que ça se passe. C'est là qu'il faut être. Le public évolue entre les 4 niveaux de la raffinerie, le long de l'escalier. Une affiche annonce la programmation, mais c'est surtout le bouche à oreille et les déplacements de la foule qui guident les spectateurs tout au long de la soirée. Extrait donc d'un article publié sur le média en ligne lapointe.be. Et il en sera souvent ainsi au plan K, il faut le dire, au cours des années 80. Je me souviens personnellement de quelques 31 décembre assez explosés. En 1983, à l'occasion d'un anniversaire de la compagnie du plan K, Frédéric Flamand présentait le spectacle Scanlines.
La musique résulte d'une collaboration entre un Américain new-yorkais qui est Michael Galasso, avec lequel nous avons déjà travaillé, et un musicien belge qui s'appelle John Van Remelen, qui est plutôt, lui, branché sur la musique électronique. C'est une musique assez fascinante qui va du minimalisme romantique jusqu'au rock en passant par le jazz. Enfin, c'est tout un voyage musical que chacun ressentira un peu selon ce qu'il est.
Entre Manchester et la rue bruxelloise qui en porte le nom et qui fut celle du plan K, il y a bien sûr un lien fort. D'autres lieux bruxellois ont bien sûr électrisé les nuits de la capitale belge à la fin des années 70 et au cours de la décennie 80, en prenant parfois très tôt la vague de la tendance venue d'ailleurs, ou en la suivant, mais avec réactivité et inventivité. Comme le Circus, au sud d'Uccle, en lisière de la forêt de Soignes, le Pluriel, pas loin de la place Flagey, l'Alka-Seltzer à Anderlecht, ou dans les Marolles, près de la place du Jeu de Balle, le Disque Rouge, futur Disco Roro Latino, puis Fuse Techno, mais qui, au début des années 80, défrichait l'électro. Sans oublier la Gaîté, entre la place de Brouckère et celle de la Monnaie, jadis théâtre dédié à l'opérette et aux revues prisées par les retraités en manque de zouanze, au fronton orné d'un visage rieur et de guirlandes dorées en stuc, Guetté qui, en 1983, renaîtra en version club le week-end et salle de spectacle en semaine.
On n'aurait pas donné bien cher, il y a 3 ans, de l'avenir du théâtre de la Guetté. Fort d'un immense succès populaire par ses revues et ses cafés chantants, mais faible des quelques dizaines de millions indispensables aux travaux de sécurité. Les Bruxellois ont même craint d'y voir mettre la pioche ou de le voir converti en parking. Depuis cette nuit, la Guetté a ressuscité. C'est désormais un nouveau lieu de spectacle polyvalent. On y a croisé jusqu'au Pitzer tous les publics. Super Nana et danseurs de rock, le cachemire côtoyait le plastique, les perlouses, le cuir laqué, la coupe de cheveux en pétard, le vison et la paillette dorée.
Tout était remis à neuf.
Ceux qui venaient à la Guetté pour Simone Max risquent d'être vachement surpris par les 160 spots de 1000 watts, 2 ordinateurs de light show, des cintres sophistiqués qui peuvent monter et descendre.
Quand son parquet ne sera pas abrasé le week-end par les clubbers, la Guetté offrira sa scène aux musiciens, comme ceux de Front 242 le 28 août 1986. Dans la seconde moitié des années 80 et jusqu'à sa fermeture en 1989, c'est la New Beat qui fera pulser la Guetté grâce à feu DJ Eric Bazens. Ne reste aujourd'hui que la façade derrière laquelle se niche le musée de l'illusion. Mais au fond, nul besoin de décors fastueux pour faire vivre la nuit, comme nous l'assure l'un des protagonistes d'une nuit rouge à Bruxelles en 1981.
Quand on crée une discothèque, on veut créer un lieu, on veut créer une ambiance, on veut créer un décor, un style.
Très honnête, et c'est bizarre. C'est bizarre qu'un décorateur le dise. Je pense qu'il faut créer la réunion de certaines personnes et un certain groupe de gens. Et le décor suit et tout s'organise autour. Mais je ne pense pas qu'une discothèque ou quoi que ce soit d'ailleurs, un spectacle soit un décor. Je pense que c'est la vie et la ce qui se trouve au fond des choses qui prime avant le décor lui-même.
Avant que les gens viennent, on décide d'un certain décor quand même. On peut faire quelque chose de luxueux, quelque chose de plus simple, on peut mettre des lumières de tel et tel type. Alors, quelles sont les options de départ?
Les options de départ ont été quasiment anti-décor, surtout lumière. Je crois très fort à la lumière, aux effets d'éclairage. Et comment vous dire, de créer un lieu étrange. Je pense que ce lieu ici, sous les étoiles, est un peu bizarre et a l'air de réunir les passions. Je pense que le public crée sa propre pièce et la vie, certainement. Je pense qu'on met les ingrédients d'une alchimie assez mystérieuse qui fait que ce soir, il y a une sorte de réussite. Mais je ne pense pas qu'on fabrique la chose. Je pense qu'à partir du moment où on a lancé les dés, le public est responsable du spectacle qu'il a créé.
Et bien voilà notre voyage à travers les clubs emblématiques du Brussels by Night des années 80 et du début des années 90 se termine. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager, à l'étoiler. Bonne nuit ou belle journée.
Pour des raisons de droit d'auteur, ce podcast ne contient que des extraits musicaux. Retrouvez la version intégrale sur OVIO.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.